Voilà, c'est de Manif dont il s'agit, également avec notre invité qui est en studio. Bienvenue Sacha.
Merci Zoé.
Merci d'être venu de grand matin dans les studios de Radio Panique. Sacha, tu es accueillant dans une maison médicale et tu es également membre de la Santé en Lutte. Et là, en fait, je dis que tu es venu de grand matin, mais tu as déjà passé une bonne partie du matin à tracter, c'est ça?
Oui, c'est ça. On essaye de toucher quand même au plus les travailleuses du secteur de la santé. Et du coup, là, ce matin, on était à Saint-Jean.
Et donc, vous avez tracté pour la grande manif pour la santé qui aura lieu ce samedi à 15h, donc devant la gare centrale. Et ce n'est pas la première manifestation organisée par la santé en lutte. C'est même l'acte 2.
Oui, effectivement, c'est clairement pas la première mobilisation. Des mobilisations, on a eu quand même une petite série. Et du coup, c'est effectivement là l'acte 2 de la manif.
Et c'est effectivement un clin d'œil aussi au fait de la Boom qui fait des actes 1 et des actes 2 ou rien à voir.
Non, je pense ça fait très longtemps qu'on parle de l'acte 2. Je pense que ça fait depuis janvier facilement qu'on utilise ce mot. Je pense que si ça devait être un clin d'œil, à mon avis, personnellement, ça me fait plus penser aux mobilisations de Gilets jaunes qui parlaient en acte.
Okay. Et on peut faire peut-être un petit rétroacte. Je pense que depuis que vous existez, la santé en lutte, vous avez pu vous faire connaître assez largement. Mais comment c'est né la santé en lutte?
Du coup, moi,
et qui vous êtes exactement? qui est-ce que ça rassemble?
Qui se cache derrière? du coup, moi, je tiens à préciser que j'ai intégré la santé en lutte en septembre. Donc, je suis pas là depuis le début. Et du coup, on peut parler de l'histoire de la santé en lutte, mais c'est clair que je suis pas le mieux placé. J'ai pas tous les détails non plus. Donc, si mes copains, copines de la santé en lutte m'écoute, peut-être qu'ils vont se dire ah, ça c'est pas tout à fait. C'est pas grave, ça sera mon interprétation. Du coup, la santé en lutte, ça existe depuis 2 ans environ, un petit peu plus maintenant, je pense. Donc ça s'est créé en 2019. En fait, il y avait un petit peu, il y avait des débuts de mouvements de contestation dans les soins, plus précisément dans les hôpitaux. Et puis, c'est en parallèle les syndicats, notamment la CSC, ont lancé les mardis des blouses blanches. Comme il y avait un peu venant de la base, il y avait un peu d'activité. Du coup, les syndicats ont lancé des trucs. Et puis, en se rencontrant pendant les actions, etc., ça a un petit peu lancé le groupe de soignants à la base, qui était quand même en bonne partie des infis de milieu hospitalier. Ça les a lancés sur la constitution du collectif La Santé en Lutte.
Et du coup, ce que le collectif pouvait dénoncer déjà à l'époque, il y a 2 ans, ça fait quand même longtemps aussi que le milieu hospitalier, que les travailleurs et travailleuses du milieu hospitalier et des soins de santé de manière large dénoncent. Et ça a été mis à jour de manière flagrante encore par la crise sanitaire qu'on vit depuis 15 mois. Et ça vous a donné raison? Est-ce que ça a aidé? Est-ce que le fait qu'on se rende compte que toutes les revendications qu'un mouvement comme la santé en lutte et tous les mouvements qui ont précédé des travailleurs de la santé qu'ils avaient raison, est-ce que ça a changé quelque chose?
Je pense qu'on peut dire maintenant un peu plus d'un an après le début de la crise sanitaire, on peut voir qu'en fait ça n'a pas changé grand chose en termes d'opinion publique. Dans le sens où finalement on n'en parle déjà plus, il n'y a plus de sujet de JT sur les conditions de travail des soignants, et là on voit bien qu'il y a beaucoup de résignation aussi auprès des travailleuses de la santé, parce qu'en fait après un an on a toujours rien eu, que ce soit une vraie reconnaissance, je veux dire autre chose que juste applaudir au balcon, que ce soit de la part des politiques notamment, enfin. Et il y a eu quelques cacahuètes, mais pour le moment, en fait, même les promesses, elles se font toujours, enfin, la réalisation se fait toujours attendre. Donc, je pense pour le moment, c'est un peu aussi la désillusion de se dire, bah, en fait, après un an, on nous a de nouveau oubliés, nos préoccupations, elles sont retournées au placard. Et c'est aussi pour ça qu'on ressort dans la rue ce samedi. C'est pour rappeler qu'elles sont encore bien vivantes et qu'on se tient aussi en solidarité avec tout plein d'autres groupes de personnes, d'autres groupes de travailleuses qui ont beaucoup souffert et qui continuent de souffrir. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, la crise, c'est clair qu'elle a juste accentué ou mis en valeur des problèmes qui existaient déjà. Et ces problèmes, en tout cas dans le domaine de la santé, c'est clairement, d'une part, la marchandisation et... la marchandisation, la recherche du profit, etc. Enfin, tout ça qui s'inscrit dans le capitalisme et dans le néolibéralisme, ça c'est rampant depuis longtemps. Mais c'est sûr qu'à chaque crise, ben, on se rend compte qu'en fait nos services publics, c'est de moins en moins des services. Et voilà. Et puis après, ben, y a aussi la question que y a beaucoup de travail qui est il y a beaucoup d'exploitation dans le milieu de la santé, quoi. Je veux dire, les travailleuses dans les hôpitaux, par exemple, sont quand même vraiment exploitées par les directions. Et donc, à ce niveau-là, c'est un autre pan.
Et pour bien comprendre et pour que les auditrices aussi puissent comprendre qu'on parle de marchandisation de la santé, comment ça se vit aussi bien pour les patients, mais surtout pour les travailleurs et travailleuses, comment vous vivez ça, par exemple dans une maison médicale? Est-ce que vous êtes un peu protégé, enfin, de cette marchandisation? Est-ce que c'est plus concret dans les hôpitaux ou
Je pense que clairement c'est plus concret dans les hôpitaux. Je pense que de manière générale, l'hôpital, de par sa grandeur, c'est une institution totale, l'hôpital, et je pense que du coup ça accentue clairement toutes les dynamiques qui sont en cours dans le domaine de la santé de manière plus générale. Mais du coup, concrètement, je pense donc la marchandisation, en fait, c'est une suite logique de la casse des services publics, dans le sens où au lieu d'avoir un hôpital public qui est financé par les impôts, etc., juste sans lui demander, enfin, pas sans demander des comptes, mais je veux dire, en se disant, de toute façon, le but, c'est que les personnes, elles peuvent se soigner, quel que soit leur revenu, etc. Ça, c'est cassé depuis quand même plusieurs décennies. Et du coup, les hôpitaux, notamment, ils sont obligés de chercher d'autres sources de revenus, ou en tout cas de beaucoup plus justifier. Et donc, quand on parle de marchandisation, on pense au fait qu'ils sont... Ils sont obligés de vendre chaque acte, quoi. Chaque acte médical qui va être posé, chaque nuit à l'hôpital, etc. Tout ça doit leur rapporter de l'argent, parce que sinon, ils s'écroulent. Et donc, concrètement, dans la vie de tous les jours, en fait, la marchandisation, c'est le fait que s'il faut changer un pansement sur la plaie d'un patient, du coup, il va falloir le noter pour qu'ensuite le patient, il le paye, ou son assurance. Il n'y a plus rien qui est fait... Les choses sont faites que si elles rapportent. Après, c'est clair que dans la réalité de tous les jours, les soignants compensent ça en donnant plus de leur personne, en faisant un show, parce que évidemment qu'on a envie que les patients ils soient en bonne santé et qu'il n'y a personne qui ressort de l'hôpital malade ou en mauvaise santé. Mais toute l'institution pousse à noter les actes, les facturer, etc. Et donc, en plus d'être moins accessible, c'est aussi très nuisible, parce que du coup, c'est une perte de temps énorme, de temps et d'énergie, de devoir noter toutes ces choses, les répertorier, faire en sorte qu'elles rentrent dans des cases, parce que c'est ça, elles vont devoir rentrer dans une case à un moment.
Et effectivement, ça fait quelques années. Est-ce que la justification de ça, elle est purement économique? Enfin, est-ce que ou bien est-ce qu'il y a autre chose qui est mis en avant pour justifier cette dérive marchande, on va dire, des soins de santé?
Je pense que bon, ça s'inscrit de manière générale dans le néolibéralisme des années 80. Et après, là, surtout depuis 2008, je pense qu'il y a l'excuse de l'austérité qui fait que les États ont dépensé beaucoup d'argent, notamment pour renflouer les dettes des banques, etc. Et que, de manière générale, l'économie n'est pas super prospère. Et donc, voilà, on nous sert un peu l'austérité dans tous les domaines, et y compris dans la santé, pour dire qu'il n'y a plus d'argent public, entre guillemets. En tout cas, il n'est plus utilisé pour ça. Il n'y a plus d'argent public, et donc il faut trouver l'argent du côté du privé. Et voilà, c'est l'austérité à tous les étages.
Et Santé en lutte et les collectifs ou organisations qui vous soutiennent, quelles sont justement les propositions que vous pouvez faire pour contrer cette vision marchande du profit à tout prix, on va dire? Comment vous pouvez, quels sont vos, bon, je vais pas dire arguments, mais vos propositions aussi, parce que effectivement c'est l'argument qu'on vous renvoie, c'est comme tu le disais, l'austérité, donc on doit couper dans les budgets. Comment on peut contrer ça, et quelles seraient les possibilités?
Disons que bon, nous on n'a pas un programme, enfin on n'est pas un parti politique, on n'a pas un programme donc qui définirait tout plein de choses sur sur les budgets publics, etc. Mais clairement notre première demande, je pense, enfin celle qui conditionne un peu tout le reste, c'est de réinvestir dans les hôpitaux et de manière générale dans toutes les institutions de soins. Parce qu'on pense que de l'argent, il y en a, mais il faut juste aller le chercher, c'est un peu plus personnel, mais je pense du coup il y a plusieurs façons d'avoir de l'argent public et de le mettre dans les institutions de soins, que ce soit par des impôts ciblés ou éventuellement en faisant des coupes dans d'autres. Dans d'autres secteurs. Après, personnellement, je ne suis pas du tout pour la coupe dans d'autres secteurs qui souffrent, mais peut-être que du côté de l'armée ou de la police, il y a peut-être de l'argent là-bas. Mais bon, voilà, ça c'est beaucoup plus personnel. En tout cas, clairement, notre demande, c'est de réinvestir. Et puis après, c'est aux politiques de voir quelle réponse précise trouver à ça.
Et effectivement, un des soucis, c'est cette question d'investissement. Mais vous mettez en avant aussi le problème de sous-effectif aussi, qui est le résultat d'un sous-investissement. Mais donc, comment on a beaucoup évoqué justement l'année passée avec la crise du Covid, le fait que le personnel soignant était à bout, qu'ils étaient débordés, qu'il y avait trop, le gouvernement, entre autres, nous rétorquait qu'il y avait une pénurie, qu'on trouvait pas les travailleurs. Et comment est-ce que c'est un argument véritable, ou est-ce que c'est un argument un peu bidon, ou comment expliquer ça? Parce que est-ce que dans les secteurs hospitaliers ou de santé, est-ce qu'il y a des sous-effectifs parce qu'il n'y a pas assez d'investissement, ou parce qu'on ne trouve pas les gens?
Je pense que c'est pas un argument totalement bidon, mais juste il est de pour moi c'est de mauvaise foi de répondre, enfin d'utiliser ça comme réponse, dans le sens où je vais pas inventer qu'il y aurait 10 000 infis en attente d'un boulot qui serait chez eux et qui attendrait juste qu'on investisse et qu'on ouvre des postes. Mais par contre, je pense que clairement c'est le désinvestissement qui est responsable de cette pénurie, dans le sens où la pénurie, elle vient d'une part du fait qu'il y a, et ça on le dit quand même beaucoup, qu'il y a beaucoup de soignants qui quittent le métier. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils quittent le métier? C'est pas juste parce que tout à coup ils se disent j'ai envie d'être serveuse dans un resto, je pense qu'ils aiment toujours ce boulot, c'est juste qu'il est plus tenable, parce que les cadences sont infernales, notamment parce qu'il y a peu d'investissements, parce que du coup on se retrouve à couvrir beaucoup plus de lits que ce qu'on devrait faire, enfin tout ça. Et donc, clairement, c'est le désinvestissement qui est très fortement responsable du départ de soignants, en plus de la déshumanisation des soins de manière générale, qui fait qu'il y a beaucoup de soignants quand même qui ne retrouvent plus... qui retrouvent plus le métier qu'ils faisaient même il y a 15 ans, parce que en fait déjà avec tout ce que j'ai dit où il faut écrire tous les actes, etc., avec les logiciels informatiques qu'on implante dans certains hôpitaux comme à Saint-Luc, où en fait tu te balades, tu fais ta tournée avec un smartphone qui te fait des pop-up et qui te dit telle chambre, tel acte, et puis toutes les 3 minutes il te change ton nouvel acte, etc. Tu sais même plus le prénom ou le nom du patient, parce qu'en fait c'est juste un code barre sur son bracelet que tu vas scanner, et ça du coup c'est clairement les politiques managériales qui sont responsables de ce dégoût. Et puis je rajouterais juste que il y a aussi la question de la formation. Je pense que il faut aussi investir plus dans la formation, et pareil, les conditions de formation, elles sont quand même très mauvaises actuellement, avec notamment des stages interminables, super durs, totalement non rémunérés, ce qui est quand même, pour moi un scandale, de faire travailler chaque année des centaines de stagiaires, et du coup d'avoir des hôpitaux, notamment, et d'autres institutions de soins qui reposent entièrement sur ce travail gratuit, parce qu'en fait sinon, ils ne pourraient pas fonctionner.
Et justement, on dit souvent qu'au sein des hôpitaux, c'est une micro-société aussi, où les rapports de domination et toutes les qu'on peut voir à l'extérieur dans la société, que ce soit les rapports de classe, les rapports de genre, de sexe, les rapports de domination liés à la race sont reproduits. Est-ce que vous mettez ça en avant aussi, ce qui a une grosse pas discrimination, mais des processus de domination, justement, entre tu évoquais les managers, entre les directeurs, les chefs de service. Est-ce que ça se ressent aussi? Est-ce que ça contribue à écraser un peu une certaine partie du personnel?
C'est clair que les rapports de domination sont super prégnants à l'hôpital. Et du coup, au niveau de la santé en lutte, on fait pas mal. Enfin, pour le moment, je pense qu'on est plutôt en train de développer ces questions-là. Je dirais qu'elles sont pas, encore centrales dans les revendications qu'on peut retrouver en général. Je pense que d'une part, il y a le fait qu'on se positionne pas mal en soutien de mouvements qui existent déjà, et donc en fait, il y a des spécificités, enfin, je veux dire, c'est clair qu'il y a des croisements entre le sexisme et le domaine de la santé, mais du coup on va plutôt par exemple avoir à la manif des co-organisatrices qui sont des collectifs féministes, par exemple collectifs de sans-papiers, et du coup on va travailler avec pour amener des revendications qui sont à la croisée entre ces systèmes. Et puis après, je pense qu'au niveau local, donc depuis 6 mois environ, on a lancé des groupes locaux pour pouvoir avoir un ancrage un peu plus sur Bruxelles et sur Liège. Pour le moment, il y a ces deux groupes locaux, et puis il y a des embryons à d'autres endroits en Wallonie. Et là, notamment, au groupe local de Liège, elles ont fait des rencontres sur le sujet du sexisme dans le domaine des soins, et voilà, réfléchir comment comment ça s'entrecroise, parce que notamment si on parle de patriarcat, c'est clair que dans le domaine de la santé, c'est quand même un secteur où les travailleuses sont principalement des travailleuses, et donc du coup la question du patriarcat elle est absolument centrale, quoi. On peut pas se questionner sur la place des soins et des soignants dans la société sans voir le fait que c'est principalement des femmes et que le travail de soins de manière générale il est associé aux femmes, etc. Donc voilà, je dirais juste que ça se voit pas spécialement dans nos revendications, mais ça les traverse de part en part, et on essaye de faire du travail là-dessus.
Oui, et à la dernière journée du 8 mars, justement, il y avait une mobilisation, enfin, devant l'hôpital Saint-Pierre, ici à Bruxelles, où justement le lien était fait avec, comme tu évoquais, avec les collectifs féministes, mais aussi l'aspect plutôt race et discrimination raciale. Qu'est-ce que je demandais justement ce processus de marchandisation, de managérisation des soins. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus ou moins épargnés, ou que, où on disait tout à l'heure, bah, c'est clairement l'hôpital qui est une institution globale est plus touchée, mais est-ce qu'il y a d'autres lieux qui parviennent à développer autre chose?
Oui, bah, je pense que du coup, bon, de fait, chaque type d'institution de soins, chaque métier, etc., a ses particularités, a ses façons d'être mises sous pression par la marchandisation, etc. Moi, je peux parler un petit peu des maisons médicales, parce que c'est quand même des réalités qui sont assez différentes en termes de rapport de force et tout. Mais donc, ben en fait, mais le résultat, cependant, il reste que la santé, de manière générale, elle n'a pas pour vocation d'être rentable. Enfin, je veux dire, les soins de santé n'ont pas pour vocation d'être rentables. Si on cherche à les rendre rentables, ils sont plus bons. Parce que du coup, ça veut dire qu'on rationalise tout, qu'il n'y a plus d'humains, parce que l'humain, c'est pas rentable. Dire bonjour, demander comment ça va, c'est pas rentable. Tout ça. Sauf si le patient paye tout, mais du coup, alors c'est de la santé pour les riches, ce qui ne nous intéresse pas. Et donc, de fait, il n'y a pas de secteur des soins, enfin, il n'y a pas d'endroit qui est épargné de tout ça. Et donc, au niveau des maisons médicales, bah, nous, on est moins soumis à ce qui est de rendre des comptes sur exactement tous les actes qu'on porte, etc. On est des ASBL. Et on a, notamment en termes de management, on a une marge de manœuvre où la plupart travaillent en autogestion et tout. Mais par contre, ça reste qu'on est financé en très très grosse partie par le public, soit à travers les subsides en tant qu'ASBL parce qu'on remplit des missions à but social, de santé communautaire, de santé publique, etc. Mais du coup, tout ça, on est dépendant des subsides qui, on n'est quand même pas dans une conjoncture où les subsides sont augmentés, donc on doit rendre énormément de comptes, rentrer là aussi dans certaines cases qui sont souvent absurdes quand on se retrouve dans des formulaires pour justifier les actions qu'on fait. Et puis de l'autre côté, il y a le financement via l'INAMI, où là, bah, ça va dépendre soit des fonctionnements à l'acte ou au forfait. Moi, je peux un peu mieux parler du forfait où, bah, donc, en fait, on reçoit un montant fixe qui est fixé de manière assez arbitraire par l'INAMI qui considère, un patient, ça vous coûte, ou du moins, on va vous payer tel montant pour le fait que vous prenez en charge un patient sur le long terme. Et ça aussi, c'est sous pression, donc c'est renégocié justement pour le moment. Il y a des nouvelles négociations. Je suis pas du tout dedans, donc je peux pas en dire grand chose, mais je sais que pour le moment, on n'est même pas sûr que ce montant il va être augmenté. C'est possible qu'il soit coupé, et du coup, ça ce serait une catastrophe pour beaucoup de maisons médicales. Et je pense que là-dessus, on va aussi être vigilant parce que c'est super important. Et du coup, bah, les maisons médicales qui sont mises sous pression, en fait, on se retrouve beaucoup dans un système de croissance forcée où de fait, c'est le nombre de patients qui nous rapporte de l'argent. Mais du coup, ça met le service sous pression parce que bah, on a plus de demandes. Les soignants comme l'accueil sont de plus en plus débordés, donc on embauche plus. Et donc, pour payer les nouveaux salaires, on a besoin de plus de patients. Et en fait, c'est le parcours de beaucoup de maisons médicales de se dire, on va commencer en petite équipe, on a envie que ça reste familial et tout. Mais en fait, c'est pas tenable. Enfin, tout le système autour fait que c'est difficilement tenable parce que en fait on se retrouve à devoir rationaliser. C'est juste que au lieu d'avoir des managements qui viennent de d'autres domaines, etc., qui nous l'imposent, bah, en fait, c'est nous qui sommes obligés, enfin, qui sommes contraints de nous l'imposer pour continuer à fonctionner, quoi.
Et du coup, pour revenir un petit peu, je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui ne connaissent pas ce système de maison médicale au forfait. Et du coup, c'est un système où on a un contrat avec vous. Enfin, les patients signent un contrat, entre guillemets, avec la maison médicale et donc s'engagent à n'aller que consulter le médecin. Mais en général, dans les maisons médicales, il y a des kinés aussi, des infirmiers ou infirmières. On peut y faire les prises de sang. Et donc, c'est aussi une médecine qui est accessible. Enfin, dans le sens où, je sais pas moi, quelqu'un qui a des tout petits revenus et qui doit faire 50 séances de kiné, hors maison médicale, c'est quasi impayable, ah ouais. Même avec le remboursement. Ouais. Et donc, en allant dans une maison médicale au forfait, et du coup, ce qu'on entend parfois, c'est que c'est pour les pauvres. En travaillant avec certains secteurs en éducation permanente et tout, j'ai déjà eu ça où des personnes précarisées disaient non mais c'est se rabaisser d'aller dans une maison médicale alors que pas du tout. Est-ce que vous travaillez, enfin tu as évoqué le fait qu'il y avait aussi des missions sociales dans le travail que les maisons médicales font, donc toutes des activités d'accueil et tout ça. Est-ce que c'est ça aussi qui attire les personnes chez vous?
Bon, je pense que c'est des réalités très différentes d'une maison médicale à l'autre. Moi, en plus, je travaille dans le Brabant wallon, donc c'est encore différent aussi des réalités bruxelloises. Mais du coup, clairement, et puis je vais pas trop m'étendre non plus spécialement là-dessus, même si j'adore le boulot de la Fédération des maisons médicales, qui a vraiment la justice sociale comme centre, et c'est chouette de se dire que en Wallonie-Bruxelles, en fait, des Wallonie-Bruxelles, il y a 130 structures qui font partie de la, enfin 130 maisons médicales qui font partie de la fédération, qui du coup rassemblent des soignants qui se disent, qui ont comme objectif de pouvoir soigner tout le monde, et du coup voilà, donc je trouve ça clairement super super chouette et tout. Et après personnellement, je trouve que la maison médicale, c'est notamment un des exemples les plus concrets de solidarité, et c'est pour ça que personnellement j'insiste beaucoup sur le fait que c'est pas juste pour les pauvres entre guillemets, dans le sens où en fait la maison médicale, c'est se dire que je sois en bonne santé ou en moins bonne santé, je paye la même chose, c'est-à-dire en Belgique, on a quand même la chance d'avoir encore des mutuelles, et donc en fait rien, c'est gratuit en fait quand on est au forfait. C'est gratuit parce que c'est la mutuelle qui rembourse via l'INAMI. Et du coup, en fait, si je suis en bonne santé et que je m'inscris dans une maison médicale, je vais contribuer à la financer, tout en du coup permettant donc d'avoir des soignants disponibles, d'avoir des locaux, d'avoir du matériel, etc. Et ainsi, la personne qui elle a besoin de trois visites à domicile de l'infi, chez elle, d'accompagnement psy, parce qu'il y a des maisons médicales où il y a des psys ou des assistants sociaux, etc. Ça, je vais pouvoir le permettre parce que moi, je suis en bonne santé et je contribue à financer, entre guillemets, la maison médicale. Donc, clairement, c'est super. Enfin, voilà, c'est le petit instant un peu pub. Enfin, ouais, bref, c'est bon, on ne doit pas trop faire de pub, mais en tout cas, j'encourage vraiment à s'intéresser au système des maisons médicales et à sortir de cette idée que, entre guillemets, c'est juste pour les pauvres, même si je trouve ça n'a rien de dégradant.
Oui. Voilà. Mais justement, tu évoquais le fait qu'il y avait des renégociations sur les montants. Il y a quelques années, je pense qu'elles étaient fort mises à mal aussi, notamment par Maggie de Bloch, qui trouvait que c'était pas rentable du tout, les maisons médicales là au forfait, et que c'était un non-sens aussi en termes de rentabilité, justement, et dans ce qu'on évoquait en début d'entretien. Il y a un autre élément qui a pu être évoqué déjà par toi et qui figure dans votre appel à la manif de ce samedi, c'est la question des déterminants de santé. Et donc on a vu aussi que avec le Covid, ben tout le monde avait que si tout le monde avait été touché plus ou moins, ça n'avait pas été de la même façon ni avec la même ampleur selon où on habitait et quels étaient nos revenus. Est-ce que tu peux un peu en dire plus sur cette déterminant de la santé?
Je vais du coup juste rebondir sur à partir du point enfin de ce qu'on abordait juste avant qui est aussi que enfin donc Maggie de Bloch qui disait que c'était pas rentable c'est bien ça le problème enfin c'est que de fait c'est pas rentable et c'est pas l'intérêt mais par contre je pense avec la santé en lutte on porte aussi un message où on dit une partie de la surcharge des hôpitaux, c'est aussi parce que la première ligne, enfin, ce qu'on appelle la première ligne dans la santé, c'est le médecin généraliste, c'est les personnes qui vont faire en sorte qu'on ait de manière générale en bonne santé, avant de se retrouver dans des états qui se dégradent, enfin, des choses comme ça. Donc la première ligne, elle est délaissée. Elle est cruciale, en fait, pour aussi décharger les hôpitaux. D'investir dans la première ligne et de fait c'est pas rentable et ça le sera jamais et c'est pas le but quoi enfin pour nous du coup pour ce qui est des déterminants de la santé je pense que c'est aussi c'est clairement délaissé en tant que on les voit très peu dans les politiques publiques en tant que déterminants de la santé donc si on parle du logement on va le prendre seulement sur des aspects de est-ce qu'il y a des logements disponibles qu'est-ce qu'on va faire comme chantage pour avoir accès à des logements sociaux etc or c'est aussi une question de santé comme tu l'as dit et du coup pour nous c'est super important c'est aussi pour ça que en tant que santé en lutte on n'a pas des revendications seulement sur le financement des hôpitaux et les conditions de travail mais aussi sur surtout plein d'aspects de la société et donc on se fait écho de certaines luttes qui sont actives on essaye dans la mesure de nos énergies etc de travailler main dans la main avec d'autres collectifs qui touchent à d'autres domaines et donc il y aura des revendications autour du logement qui seront portées pendant la manif par exemple et je pense qu'on pourrait aussi parler d'alimentation. C'est clair qu'il y a plein de choses qui déterminent la santé, à peu près tout, notamment la santé mentale, qui impacte aussi la santé physique. Et du coup, je rebondis encore, je dérive, tu me disais. Enfin bon, mais du coup, la question de la santé mentale, ça me fait penser au fait qu'on a aussi quand même pris des positions par rapport à certaines mesures sanitaires / sécuritaires, où on est clairement pour la solidarité et le fait de se protéger les uns les autres, et donc le port du masque. On trouve ça très important et que c'est un moindre coût par rapport à d'autres mesures. Mais par exemple, on a quand même aussi un peu critiqué le couvre-feu qu'on juge tout à fait inutile et on n'est pas du tout les seuls à le dire, y compris dans la santé. Et des mesures de confinement qui sont non seulement parfois très forte par rapport à ce qui serait nécessaire, mais en plus souvent on voit bien que c'est des doubles standards quoi. Donc d'un côté on va te dire que tu dois rester chez toi pendant un mois et demi, mais à côté de ça on va laisser les travailleurs dans certains secteurs continuer à se mettre en danger sur leur lieu de travail. C'est pour dire qu'on s'est aussi penché sur ces questions-là et même si on n'est pas virologue, on n'a pas la prétention de dire absolument ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire, ça nous empêche quand même pas d'être critique de certaines motivations du gouvernement par rapport aux mesures sanitaires sécuritaires.
Et c'est vrai qu'un des reproches qui a été fait par les collectifs militants, que ce soit la santé en lutte ou d'autres, c'était justement que il y avait eu des mesures qui avaient été prises pour tout le monde sans justement mesurer les différences d'impact que ça pouvait avoir, et aussi en considérant en ayant un point de vue universel, celle de la famille unitaire, enfin unie, avec la maison quatre façades et l'accès au jardin pour justifier de certaines mesures. Et donc ça fait écho aussi à ce qu'on évoquait des déterminants de santé, donc logement, éducation, revenu, tout ça détermine effectivement la façon dont on vit la santé, que ce soit là maintenant avec la pandémie, mais déjà avant en général. Il y a des cartes, par exemple sur Bruxelles, qui montrent que l'espérance de vie, elle est 3 ou 4 années plus élevée à Woluwe, Saint-Pierre, qu'à Molenbeek ou à Saint-Josse. Et donc, on voit bien aussi que c'est comme ça. Comment ça va se passer ce samedi, en fait, en temps de pandémie? Comment on organise ma voix me lâche. Comment on organise une grande manifestation de la santé en confinement?
Du coup, donc, pour samedi, donc, en fait, on a eu une autorisation pour un rassemblement statique. Donc, on va pas pouvoir défiler comme on l'aurait aimé. On sait, enfin, quand même, le but, c'était. Enfin, une de nos priorités, c'est quand même d'assurer la sécurité des personnes qui participent, et donc du coup, on respecte cette injonction à faire un rassemblement statique. Donc voilà, déjà c'est une chose. Bon, même si on pense quand même que, et c'est quand même assez prouvé que c'est quand même beaucoup mieux une foule en déplacement qu'une foule statique en termes de circulation de virus, par exemple. Mais bon, soit. C'est clair quand même que, de toute façon, on va pas se mentir, pour le moment, à Bruxelles et en Belgique, c'est quand même de plus en plus difficile de manifester par rapport au tournant sécuritaire et répressif de la police et tout. Donc bon, c'est pas non plus c'est pas juste leur préoccupation, c'était pas juste la santé, enfin la santé des participants, quoi. Mais bon, on va faire avec. Et donc, bah, concrètement, nous, donc on appelle clairement au port du masque et au respect des distanciations physiques pendant la manif, même si en termes de distanciation, on sait qu'elles sont pas, enfin, on peut pas respecter le 1,5 m. Et donc, c'est pour ça, d'autant plus que le port du masque est important, parce que sinon, il est important. Et sinon, concrètement, ça va se passer. Il n'y a pas grand-chose de plus de très particulier qui soit lié au contexte, quoi. Donc, le fait que ça soit statique, ma foi, ça va faire qu'on va se concentrer encore plus sur les interventions. Il va y avoir des prises de parole assez diverses, en essayant que ce soit pas non plus trop long et lourd à suivre. Mais les différents blocs qui sont constitués vont intervenir. Donc les blocs sont des regroupements en général de plusieurs collectifs sur des thématiques. Ça avait déjà été le cas en septembre pour la manif, il y avait déjà des blocs, et du coup on retrouve de manière générale plus ou moins les mêmes collectifs qui se sont remis ensemble pour visibiliser leurs revendications, et aussi les croisements avec les questions de la santé. Je pense notamment au bloc cuir qui a fait un texte que j'invite à lire sur les liens entre les communautés cuir et les questions de santé, parce que c'est clair que c'est des communautés qui ont aussi dans leur histoire été très touchées par les questions d'épidémie, en fait, si on fait référence au sida notamment. Je conseille d'aller lire leur texte. Mais il y a plein d'autres textes. Vraiment, c'est clair que je conseille d'aller se balader sur les événements qui sont repris. Si on se balade sur notre page, on peut retrouver les événements des différents blocs. Et c'est intéressant de voir ce que ces blocs ont, ont écrit pour voilà faire se croiser les différentes revendications et voilà et c'est enfin pour nous c'est super important. C'est pour ça aussi que on parle de la manif de la santé des oubliés parce que tout ça est lié. Enfin c'est on traverse la même crise. C'est juste qu'elles se manifestent de manière différente, mais une partie des solutions, elles sont, c'est des solutions qui peuvent répondre à des différentes préoccupations, quoi. Je pense que ce soit en termes de manière générale, réinvestir dans les services publics, par exemple, remettre en avant la solidarité, etc. C'est pas juste une question de santé.
Effectivement. Et comment on peut... est-ce que les différents blocs, ils ont des lieux de rendez-vous différents, du coup
Du coup, ouais, le rassemblement, donc ça c'est en bas du Mont des Arts. Les blocs, ça dépend un petit peu. J'ai vu des blocs qui appelaient à se retrouver à 14h30, à un endroit un peu plus précis, que ce soit en bas des marches, de tel côté. Mais bon, de manière générale, de toute façon, les blocs, ils se formeront sur place et il y aura moyen de les rejoindre, de passer de l'un à l'autre aussi. Il y aura du coup ces blocs qui sont organisés par des groupements de collectifs. Et puis, bah, il y aura aussi ce qu'on appelle un bloc de soignants. Hein, donc, on va inviter, on invite autant que possible les personnes soignantes ou simples, enfin, ou travailleuses autour du milieu de la santé. Dans tous les appels de la santé en lutte, on essaye aussi de s'adresser à tout ce qui est paramédical, et que ce soit des brancardiers, mais aussi on va s'adresser au personnel d'entretien, par exemple, de la logistique, du secrétariat. Enfin, pardon. Voilà, je ne sais plus. Mais du coup, oui, donc en fait, le mieux, c'est de toute façon de venir sur place et puis. Je te laisse.
Et de voir, on est entre ma voix cassée et. mais donc, c'est donc ce samedi à 15h, le rendez-vous à Bruxelles Centrale, au Mont des Arts. Donc, et comme Sacha le disait, une. Co-organisation d'une multitude de collectifs qui soutiennent cette manifestation et donc à aller voir sur les réseaux sociaux, effectivement. Mmh. Sacha, merci beaucoup d'être venu.
Merci à toi.
De nous avoir
pour l'invitation.
Fait remis dans le contexte aussi toutes ces revendications et montrer toute l'importance effectivement de continuer le combat comme on dit pour arriver justement à une sécurité sociale et des soins de santé accessibles à toutes et tous. Ben merci et bonne manifestation. Ce samedi nous on va continuer.
Je peux avoir un petit mot de la fin?
Tu peux avoir un petit mot de fin.
Du coup, c'est juste pour dire, on n'a pas du tout parlé de la mobilisation internationale.
Ah, c'est vrai.
C'est pas grave, ça sera pour une autre fois, parce qu'il y en aura sûrement d'autres. C'est juste pour caser que, du coup, on a lancé un appel international avec, en fait, on s'est regroupé avec quelques autres collectifs qui sont un peu semblables de la santé en lutte, en France et en Italie. Et puis, on a lancé donc, un appel qui a été rejoint par une soixantaine d'organisations. Donc des syndicats et des collectifs en lien avec la santé dans tout plein de pays. Du coup, c'est samedi, il y aura des mobilisations dans 4 pays différents. Donc il y aura aussi dans plusieurs villes en Italie, plusieurs villes en France, à Madrid et à Barcelone en Espagne. Sinon, on a aussi des signataires de Québec, de Suisse, de Roumanie, de Royaume-Uni. Et je pense que voilà, c'est aussi le début d'une collaboration internationale. Parce que ben de fait on est quand même soumis à peu près au même mécanisme un peu partout et donc voilà je voulais aussi rappeler ça et il y a un appel L'appel est disponible en ligne, que ce soit sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Et voilà, je pense que c'est aussi une bonne synthèse de nos arguments et de nos revendications, si jamais ça vous intéresse.
Et c'est vrai, je l'avais vu en préparant l'émission et puis j'ai oublié de te relancer là-dessus. Merci de le faire, du coup. Ouais. Et c'est vrai que ça montre que malgré le confinement, il y a beaucoup d'initiatives aussi internationales qui ont renforcé cette solidarité, malgré l'éloignement. Que ce soit dans le domaine de la santé, mais dans d'autres contextes aussi, au niveau des femmes aussi, il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises en place. Merci beaucoup.
Merci.
Bonne journée, bonne manifestation. Venez nombreux et nombreuses samedi à Bruxelles à 15h pour cette grande manifestation de la santé et des oubliés. Nous, on va terminer ces promesses de l'aube avec Karen Black et Cass McCombs avec I Wish I Knew the Man I Thought You Were.
À samedi.
À samedi.